Vous êtes sur RTL.
Balade gourmande sur RTL
avec Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demand.
C'est parti les amis, trois guides du routard à gagner tout à l'heure. Bien sûr, les vacances de février viennent de débuter. La situation en France est très contrastée niveau neige. Balade dans le Jura qui en manque justement. Mais alors pour vous, Jean-Sébastien, c'est pas un problème.
Bah, la moyenne montagne est touchée sévèrement cette année par le manque de neige. La transjurassienne course de ski de fond mythique n'aura pas lieu ce week-end toutefois. Il faut savoir qu'il y a quand même de la neige dans les stations. Nombre d'entre elles sont ouvertes. Il va falloir s'habituer aussi à ce genre d'hiver, vu la situation globale, en étant moins consommateur de sports d'hiver et en découvrant aussi la montagne autour des pistes qui offrent mille choses à faire et à voir, même l'hiver.
Et c'est donc la station des Roses dans laquelle nous partons en balade.
On est dans le Haut-Jura et l'on découvre là-bas un pays vivant qui exerce une fascination immédiate, quelle que soit la saison. Les Roses se trouvent en plein cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, un parc créé en 1986, couvrant 164 000 hectares correspondant à 113 communes. Les Roses, c'est la station la plus connue du massif jurassien, notamment pour le ski nordique, pour le ski de fond. Et aujourd'hui, sur 290 km de piste, 60% du domaine est ouvert. Idem pour le ski alpin, avec un domaine qui s'étend de l'autre côté de la frontière avec la Suisse. C'est dans cette station de 3000 habitants qu'on trouve d'ailleurs le fameux hôtel Arbez. Il se trouve au lieu-dit La Cure.
Qu'est-ce qu'il a de spécial cet hôtel ?
Alors d'abord, il est situé sur la frontière. Le restaurant, par exemple, est en Suisse, le bar est en France. Il en est de même pour les chambres. Certaines sont traversées par la frontière, sinon vous dormirez en France ou en Suisse en fonction du côté du couloir dans lequel vous êtes. Mais mieux, en 1940, l'hôtel s'est retrouvé au point de jonction entre la Suisse neutre, la zone libre et la zone occupée en France. Du coup, l'histoire raconte que la maison a servi de couloir de passage. On peut en attendant, aujourd'hui, se régaler de fondue suisse. Vous imaginez cette fondue avec du gruyère, du vacherin et du blanc suisse. On peut manger du poulet au mori, de la saucisse de morteau avec de la cancoyotte ou une truite meunière des Rousses. La formule au déjeuner est à 15 euros.
Bon, très bien. Si la neige manque, Jean-Sébastien, on peut faire quoi là-bas ?
Alors, on va visiter le musée du ski. Musée totalement unique. On le doit à un passionné qui a voulu rendre hommage à la vie montagnarde. Toute l'histoire du ski est racontée avec beaucoup de passion. On découvre des bobsleighs de 1910 qui permettaient, non pas de faire du sport, mais de se déplacer dans la montagne. Il y a une kyrielle de paires de ski qui traversent les années depuis 1850. Et puis, des raquettes, des chaussures, mais aussi des objets typiques du Jura, comme le pic à gentiane ou le couteau à tourbe. Autre lieu immanquable, le fort des Rousses. Fort datant de 1862, abandonné en 1919, qui est devenu une colonie de vacances. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, les militaires en firent un centre d'entraînement commando, ce jusqu'en 1997. Mais tout cela n'a que peu d'importance, car on y va surtout pour le trésor qu'il abrite, à savoir 45 000 meules de comté qui s'affinent, qui vieillissent tranquillement grâce à la température constante et à une aération idéale. La visite des caves d'affinage Juraflore est absolument passionnante. On vous raconte 1000 ans d'histoire de ce fromage et vous allez déguster des comtés qui auront passé 24, 30, voire 36 mois dans ces caves. Ça vous retourne les papilles tellement c'est bon ce truc.
Dites-nous, il y a aussi une option balade en raquette ou pas ?
Alors vous pouvez plonger dans les bois autour de Lamoura ou de Prémanon, des forêts de hêtres, des forêts de sapins et d'épicéas qui se succèdent en fonction de l'altitude et qui sont le poumon vert de toute la région, des arbres qui forment des paysages d'une grande poésie et qui sont à l'origine de nombre de savoir-faire typiques, du jouet en bois qui sont toujours tendance jusqu'aux pipes. Spécialité de Saint-Claude. C'est moins tendance aujourd'hui, la pipe.
C'est comme si on y était, grâce à vous, Jean-Sébastien. Louana, la cuisine de montagne, on y vient. C'est quoi ? C'est un vrai style ?
Eh oui, Stéphane, je vous avoue que je préfère clairement la cuisine des montagnes à la montagne. Je suis romaine, comme vous le savez, donc j'ai un peu de mal avec les températures négatives, on va dire. Mais j'avoue que si la neige et moi, nous ne sommes pas vraiment copine, la situation change radicalement si on parle cuisine. Moi qui adore le fromage, vous imaginez que je suis fan des tartiflettes, des fondues savoyardes, des croûtes comtoises, des tartes au Munster, accompagnées bien sûr des rostis. Voilà, c'est ça pour moi la montagne en hiver. La cuisine, j'avoue, un peu grasse, mais vraiment réconfortable. Je ne parle même pas du côté convivial, car une raclette est le plat ayant le pouvoir d'y rassembler comme aucun d'autre. Et puis, essentiel, quant au ski.
Ouais, c'est histoire de supporter un peu le froid, tout ça, quoi.
Et ben oui, et ben oui, il faut dire ça, parce qu'en fait, l'important à la montagne, lorsque les saisons des skis sont longues, c'est de se réhydrater et de faire aussi un plan des calories pour le lendemain. Vous allez me dire que c'est très gras. Bien sûr que tout cela est très riche en lipides, mais les graisses animales sont très énergétiques. Et puis, il faut avoir à l'esprit qu'à la montagne, on peut brûler, pas moins, entre 5000 et 7000 calories, alors que dans une vie courante, on n'en brûle que 2500. Et puis, à la montagne, on mange aussi du cochon, de la charcuterie, que l'on trouve dans de nombreuses recettes traditionnelles, comme le farcement et ou les diots dans les Alpes. Et c'est dans les Alpes que les échanges entre le Piémont italien et la Savoie ont permis d'avoir cette magnifique polenta. Et justement, j'aimerais vous faire découvrir un plat typique hivernal des nos montagnes italiennes.
Et donc ce matin, on a bien compris, on fait de la polenta.
Mais oui, mais pas n'importe laquelle. Ça s'appelle la polenta concia. Alors c'est une recette très originale. Elle est faite avec des fromages italiens, comme la fontina ou l'asiago, ça dépend des régions où elle est faite. Mais il faut dire que c'est un plat à la base des pauvres, qu'il servait juste à réchauffer et remplir le ventre. Puis avec le temps, on y rajoute des saucisses, des champignons, de la sauce tomate qui a mijoté avec des travers des porcs. Et moi, par contre, je vous propose la recette base avec comme unique changement le choix d'utiliser des fromages du Jura pour faire honneur à mon cher voisin.
C'est formidable. On met tout ça sur la page Facebook, évidemment, hein, Louana.
Oui, bien sûr.
Pour tous les détails de cette belle recette que vous nous proposez. On s'est bien baladé grâce à vous. On a une question pour décrocher des guides du routard.
Ça va être bon, ça, quand même, avec la tombe du Jura et du comté. Mmh.
Quel est le nom de ce jurassien né en 1821 à côté de Lons-le-Saunier? Il est devenu fabricant de malles de voyage et le monogramme, aujourd'hui, est devenu le symbole du luxe absolu. Il est connu dans le monde entier. Quel est son nom au 32-10?
La montagne vous rend gentil. Hein.
3-2-1-0, vous êtes les bienvenus, le standard est disponible. Il y a un guide du routard à décrocher, il y en a trois pour vous ce matin. On vous souhaite bonne chance. On va